Podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jovenot.
Bonjour, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je vous souhaite une bonne arrivée à Madagascar, l'île continent au cœur de l'océan Indien. C'est une des plus grandes de la planète, habitée par une mosaïque de peuplades issues de migrations proches et lointaines. J'ai même dégoté pour vous un neuropsychiatre belgo-malgache qui va nous accueillir sur l'île Rouge.
Bienvenue, Tongassou, on dit en malgache, à l'équipe des Belges du bout du monde.
Où sommes-nous, Naïla ?
Nous sommes en Tirabé, donc une ville appelée la ville d'eau, qui est donc une ville de villégiature des anciens colons à ce moment-là. Il y a toujours le soleil. Et bienvenue au soleil, Adrien.
C'est votre ville natale ?
Oui, c'est ma ville natale, c'est une ville de cœur. Et j'y tiens beaucoup de revenir ici de temps en temps, même si pas mal de choses ont changé. Sur notre gauche, toute la longue avenue de l'indépendance, avec sur les côtés notamment l'école où j'ai été, qui s'appelait École Européenne, École Garbi.
Des avenues très très larges.
Oui, très larges. C'est vraiment le style français du Sud.
Alors après cette école européenne, il y a eu l'université avec encore un nom très français.
Oui, l'université Charles de Gaulle où j'ai fait mes études médicales avant de partir en Europe.
Alors ici à Madagascar, vous vous sentez en Afrique, en Asie, dans l'océan Indien. Comment est-ce que géographiquement vous vous situez, culturellement, comment est-ce que vous vous sentez ?
On pose beaucoup cette question aux malgaches en général et la plupart diraient non, nous sommes malgaches, nous ne sommes pas africains. Nous sommes séparés de l'Afrique donc par le canal de Mozambique qui fait 400 km et le climat y est différent, la population différente, la culture différente. Une origine plutôt donc asiatique en premier, puis après sont venus les Arabes et les Africains.
Alors ici on pratique le mora mora, c'est quoi le mora mora?
Tout doucement, c'est un peu la formule qu'on utilise, donc pour ne pas être trop stressé.
On sent que c'est une ville apaisante comparée à la capitale, Tana.
Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on appelle cette ville Vichy Malgache, un peu comme à Spa, chez nous en Belgique. Donc c'est vraiment une ville où on vient se reposer, parce qu'il y a aussi les sources thermales, bien entendu.
Alors, pour dialoguer avec le professeur Andriana Raharison, un autre scientifique, biologiste marin. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour.
Vous avez été le président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez mené une centaine de missions scientifiques à l'étranger dans une quarantaine de pays différents.
Une centaine maintenant.
Oh là là, bien, bravo. Une centaine de pays différents. C'est dingue ça. Vous avez fait plus d'un pays sur deux de la planète. C'est rare.
Hein. C'est rare.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont tant voyagé que vous.
C'est juste.
Mais pas pour le plaisir. Vous, c'était bon, à la fois pour le plaisir,
aussi.
Mais aussi pour faire avancer la science et pour défendre la planète. Vous avez, je crois, une place particulière dans votre cœur pour Madagascar.
Oui, absolument, parce que c'est une vieille histoire d'amour avec le Muséum d'Histoire Naturelle. En fait, on a été les premiers à intensifier des efforts de recherche. On a mis en place des réserves naturelles à Madagascar depuis les années 50.
Vous restez avec nous jusqu'à 10h et vous réagirez aux interviews, aux reportages réalisés à Madagascar avec Andriana Raharison. On fait comme ça ?
Avec plaisir.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Bonjour la Belgique, je suis Andriana Raharison, Nine pour tout le monde. Oui. Donc je suis ici en Tirabé, ma ville natale, et une ville de cœur où on vient un peu en visite.
Alors Naïra, votre cœur, il est aussi en Belgique, parce que vous êtes quelque part un Belge du bout du monde.
Oui, un Belge du bout du monde qui est resté quand même quelques années en Belgique, notamment dans la région de Namur, qui est la ville de mes amours, et Mons, qui est la ville de mon épouse. Oui, donc c'est vraiment le pays plat qui est le pays de la construction de ma vie.
Et vous avez décidé de revenir au pays natal pour que celui-ci profite un peu de votre acquis, de vos études, de neurologue, parce qu'il y a très peu de médecins ici à Madagascar.
Oui, tout à fait. Donc, ayant terminé les études, le rêve toujours, c'est de participer un peu en mettant des briques au développement du pays. Mais ça ne va pas toujours comme ça. Donc, j'ai amené mon épouse, Carmela, qui est médecin aussi. Et après 20 ans maintenant, on continue, on rame. Mais on n'est pas découragé, nullement.
Parce que Madagascar, il faut le rappeler, est un des pays les plus pauvres de la planète, Gilles Boeuf. Hein.
Oh oui, c'est la grande misère. Et on a une image de pays du Sud chaud. Et la première fois que je débarque à Antananarivo, à Tana, comme on disait tout à l'heure, c'était au mois d'août, il faisait un froid de canard. Et je vois ces gens entre l'aéroport et le centre de la ville. Il y a des gens avec des braseros et ils brûlent les derniers bouts de forêt malgache en fait pour se chauffer dans des conditions très difficiles. Et la misère est vraiment prégnante partout. C'est un pays extraordinaire qui a des ressources exceptionnelles. En matière de botanique, on pourra en discuter, de faune bien sûr aussi. Minéral aussi, on l'oublie, il y a des gisements qui valsent du Brésil, des tourmalines absolument extraordinaires. Des aigues marines et puis des émeraudes. Et puis c'est vrai que tout ça aujourd'hui est mis en coupe réglée par des systèmes économiques qui sont vraiment très difficiles pour la population.
Un peu comme au Congo, hein, on peut faire...
Ouais, vous connaissez bien, ouais, c'est oui. On parle effectivement.
La comparaison. Vous avez fait vos études une partie en Belgique, un peu comme Naina.
Oui, moi je suis passé par le Sarthe-Tilmont dans les années 90, au début des années 90.
Ah, vous parlez belge, vous dites 90, c'est bien.
Je m'y mets un petit peu, je m'adapte aux conditions locales.
Là, on va écouter un de vos confrères avec nous, hein, toujours Naina Harrison, qui nous parle de son métier.
Ici à Madagascar, à Tana, à Antananarivo en particulier, je fais la neuropsychiatrie et de la psychothérapie. Et aussi, au fur et à mesure, comme je suis fan de culture, de développement et d'échange entre les pays, j'ai créé un blog pour les jeunes, et particulièrement ces derniers temps, donc une émission radio-télévisée sur l'éducation, la santé mentale et les échanges.
Toujours en mouvement alors?
Oui, oui, tant qu'on a un souffle, bon, il faut bouger, il faut faire ce qu'il faut. La vie ne servirait à rien si on ne bouge pas.
On est ici devant votre maison natale, où vous avez vu le jour à la fin des années 50. Où en était Madagascar à ce moment-là?
Madagascar à ce moment-là, c'était donc, et particulièrement en Tsirabé, Madagascar était encore sous la colonisation, c'était la fin de la colonisation. L'indépendance, c'était en 1960. Et même si ça n'avance pas beaucoup et que parfois on a même un peu un certain regret, je pense qu'il faut regarder devant parce que c'est comme ça que ce pays va se développer, c'est surtout par l'intermédiaire de la société civile.
Regardez devant, Gilles Boeuf, c'est le plus important.
Tout à fait, j'écoute Naina que je ne connaissais pas, mais je l'aime déjà en écoutant sa voix et ce qu'il dit dans sa sagesse. Fin des années 50, il reste à peu près un quart de la forêt malgache. Quand les humains la découvrent, vers 3000 ans, il y a 90% de forêt sur Madagascar. À l'époque dont parle Naina, quand il naît, il ne reste plus qu'un quart. Il reste 12% de la forêt malgache aujourd'hui. Et une grande partie de la richesse est partie avec. Et c'est très compliqué d'expliquer à des gens très pauvres que chaque fois qu'ils enlèvent un arbre ou qu'ils brûlent de la forêt, ils s'appauvrissent encore un petit peu plus. C'est un pays aussi fabuleux dans la culture du riz. Hein. Le malgache, il faut le dire, est l'humain au monde qui mange le plus de riz par tête d'habitant, c'est plus que les Indiens. Le riz est acheté à l'étranger aujourd'hui. C'est une succession, une litanie comme ça de nouvelles sur la nature malgache qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va.
Et vous, c'était quoi? Le fait de revenir ici, c'était une promesse? C'était un engagement? C'était un idéal?
Bon, je ne suis pas... C'est pas dans le sens patriote, c'est plutôt dans le sens humain. Moi, j'ai toujours rêvé d'aider les autres. Dans ma petite enfance... Donc ma mère me racontait que je voulais être boucher pour pouvoir partager mes saucisses aux gens que j'aime et à ceux qui sont nécessiteux. Puis par la suite, vers l'âge de 5-6 ans, j'ai voulu être médecin. Donc, et ça je me rappelle bien parce que je l'ai dit, j'ai encore les images dans ma tête. C'est surtout aussi une satisfaction personnelle de pouvoir faire quelque chose pour l'autre. Ça c'est très important.
On entend derrière nous, votre quartier natal est resté très rural. On est pourtant ici dans une très grande ville, hein, 300 000 habitants, et on a l'impression d'être à la campagne.
Effectivement, on est dans un quartier qui est assez typique. Hein. Donc il y a la maison qui est à côté, à 200 mètres il y a la piscine où on allait à 5 heures du matin pour nager, avec une piscine chauffée. l'eau volcanique. Hein. Et carrément, on est vraiment dans un quartier où il n'y a que des gens qui habitent, il n'y a pas de bureau, il y a même le coq là qui chante et qui vous dit bonjour à la Belgique.
Et la source d'eau chaude, c'est le volcan qui alimente la piscine communale ici ?
Tout à fait, c'est l'eau de volcan, donc une eau chaude qui fait quand même 35-40 degrés, qui alimente jusque maintenant la piscine et puis où on peut étancher sa soif pour ceux qui le souhaitent.
Et faire du sport, c'est un peu à elle que vous devez ce corps d'athlète ?
Corps d'athlète, non, mais on fait ce qu'il faut, étant donné que je suis aussi médecin et neuropsychiatre de fonction, donc c'est important d'avoir un autre moral pour qu'on devienne aussi un peu le miroir des personnes qui viennent nous voir. Pour moi, c'est très important d'avoir cette image-là, parce que si on veut apporter quelque chose à une personne qui est en face de soi, il faut surtout donner cette image de bonne santé et de positif.
Être bien soi-même dans un corps sain, c'est un devoir.
C'est très important, c'est fondamental, et particulièrement dans nos métiers.
Prendre soin de son corps pour que son âme ait envie d'y rester. C'est la philosophie de Naina que nous continuerons de développer après cet hymne à la liberté signé Kajanin sur la première.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Free, c'était Kajanin qui animera dimanche prochain le brunch des Belges du bout du monde. Je vous rappelle que cette année, il aura lieu le dimanche 23 décembre au cinéma Palace à Bruxelles, en présence d'Eddie Merckx, puis de nos collègues Rodrigo Benkens et Bruno Coppens, avec aussi Alice on the Roof pour le concert acoustique. Il y aura des produits régionaux à déguster, du Rufus, de la Flo 58, du gin de Binche, mais aussi des jus de pommes bio, des fromages du terroir et des plats exotiques, les empanadas argentins et puis les pastéis des natas portugais. L'entrée et la dégustation seront gratuites, mais conseil d'amis, réservez vos places via lapremière.be. Et je vois que ça tente Gilles Boeuf, notre invité, surtout quand j'ai parlé d'Eddie Merckx.
Ah oui, oui, parce que c'était mon idole quand j'étais gamin. Moi, j'ai fait du vélo, j'ai fait des courses de vélo à mon petit niveau à moi. Alors Merckx, c'était vraiment dans les Pyrénées, vous savez, cette image fabuleuse avec le type en moto de la télévision et lui, qui écartait le public avec ses deux bras. C'était les ailes de Merckx qui grimpaient le Tourmalet à l'époque. Ça a fait le tour du monde, c'était magique. Il gagnait tout, on l'appelle cannibale. À l'époque, je m'en souviens.
Oui, oui, il a gagné le tour il y a 50 ans, en juillet 1969. Ce sera notre invité d'honneur dimanche prochain pour le brunch des Belges du bout du monde. Notre invité ce matin, vous l'avez entendu, c'est Gilles Boeuf pour parler de Madagascar. Nous sommes sur les traces du professeur Naina Raharison, qui est neuropsychiatre et aussi présentateur de l'émission télé Cool Anaka.
Les Belges du bout du monde sur la première.
Cool Anaka. Cool veut dire soin ou prise en charge, et Anak veut dire celui qu'on aime le plus. Donc c'est le suivi, les soins de celui qu'on aime le plus. Cool ou Anak.
Prendre soin de la planète, c'est votre mission à vous, ici-bas, Gilles Boeuf.
Pas de la planète, qui s'en fout. Des humains qui sont dessus.
Oui, c'est ça le plus important.
On me dit souvent, il faut sauver la planète. Elle s'en fout complètement, la planète. Elle a encore pour 5 milliards d'années devant elle. Non, la vraie question aujourd'hui, c'est réharmoniser le comportement d'humain avec cette planète, le monde minéral et puis le monde vivant, bien sûr. On oublie qu'on fait partie de ce système-là. Je raconte souvent que pourquoi a-t-on, avec notre ami Naina, il le sait bien, il est médecin, pourquoi a-t-on 142 millimoles de sodium dans notre sang, 105 millimoles de chlorure? C'est l'eau de mer ancestrale. Le corps humain traduit la sortie de l'océan il y a 450 millions d'années. On a autant de bactéries sur et dans un corps humain. Un bébé humain, c'est trois quarts de flotte d'eau. Et on oublie ça. Ouais. Et c'est les choses essentielles. Et j'aime beaucoup ce que dit notre ami, parce qu'il y a beaucoup de sagesse, d'empathie et d'amour dans ce qu'il dit.
Je vous propose de faire maintenant un petit tour du côté des ressources et des exportations de cette grande île rouge de l'océan Indien. On parle souvent de la vanille de Madagascar, mais ce n'est pas sa seule richesse. L'île regorge de trésors naturels en tout genre, des richesses qui ne profitent malheureusement pas aux populations locales. Un billet de Milan Bergmans.
Oui Adrien, c'est une histoire que l'on connaît trop bien. C'est également celle de nombreux pays d'Afrique voisins de Madagascar. Les matières premières font l'objet de trafic et sortent du pays au détriment des populations locales. Dans les sous-sols de l'île Rouge, on retrouve par exemple des pierres précieuses qui servent à fabriquer des bijoux, mais aussi de l'uranium, de l'or, du cobalt, du nickel et bien sûr du pétrole. Les sociétés qui extraient ces ressources sont majoritairement françaises, américaines et anglaises. Le pays exporte également du riz, du café, du cacao, du poivre, du tapioca et bien évidemment de la vanille. Une vanille qui n'a pas toujours été présente sur les territoires malgaches puisqu'elle fut introduite en 1880 par les planteurs de l'île de la Réunion voisine. Profitant du climat tropical chaud et humide de la partie orientale de l'île, la production s'intensifie jusqu'à dépasser les 1000 tonnes en 1929. Depuis, Madagascar reste le premier exportateur de cette épice devant l'état du Kerala en Inde ou l'Indonésie. Parmi les exportations, on retrouve également un fruit exotique, le litchi, dont des centaines de tonnes arrivent chaque année en Europe. Enfin, l'élevage de crevettes par des sociétés indo-pakistanaises et françaises représente également une partie considérable des exportations du pays. De nombreuses richesses qui n'empêchent pas cet immense pays de rester l'un des plus pauvres au monde.
Pauvre et riche à la fois, c'est le paradoxe de Madagascar.
Ça fait mal au cœur. Pas très loin dans le Sirabé, il y a une très belle réserve qui s'appelle Ramonafana, où on trouve le grand apalémur doré, qui est une bête extraordinaire. Les fossas aussi, qui est le seul carnivore prédateur de l'île. C'est extraordinaire, Mada, parce qu'il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas de girafe, il n'y a pas d'hippopotame. Il y a des grands crocodiles, quand même, beaucoup, beaucoup, qui nous posent des problèmes quand on travaille pendant la saison humide dans les Tsingy. Mais c'est très différent. Et toute cette population qui a vécu sur ces ressources naturelles depuis que l'homme découvre cette île-là se trouve aujourd'hui dans des conditions de survie très compliquées. On parlait tout à l'heure des minéraux, des saphirs roses découverts récemment à Ilakaka, ça c'est sur la route entre Fionaranso et Tuléar. Je me dis, c'est fabuleux, ça a profité à tout le monde. Non, c'est entre la coupe réglée de Sri Lankais ou d'Indiens qui sont les marchands de saphirs sur la planète. Et ça fait très mal au cœur en voyant les populations autour qui continuent avec de la bâtée à chercher quelques particules d'or.
On va se réchauffer le cœur avec le travail de Naina. Il a créé l'association malgache pour l'aide et l'entraide des épileptiques qui s'appelle AMAE. Il est très actif dans la sensibilisation auprès des enfants des écoles de Tana, avec qui il développe des activités parascolaires dans les quartiers populaires de la capitale.
Dans un arrondissement ici à Tana, où se trouvent 70 000 habitants. Et dans ce quartier, on a détecté donc 150 patients épileptiques. On les a suivis donc pendant quelques années et on a un très beau résultat vu donc le suivi clinique mais aussi le suivi par l'intermédiaire d'activités psychosociales, notamment donc la cuisine, atelier théâtre, atelier art plastique, etc.
Votre objectif, je crois que c'est de dédiaboliser l'épilepsie qui ici à Madagascar est souvent assimilée à la sorcellerie.
Justement, l'OMS donc voudrait que les épileptiques sortent de l'ombre. C'est vraiment la phrase utilisée. C'est très important parce qu'ici, on lance des pierres dessus parce qu'on pense qu'ils sont plutôt diaboliques. Donc je me suis dit, je vais m'occuper de ces gens-là et surtout les gens qui sont démunis parce qu'on en voit dans la rue qui font des crises et il y a des gens, par exemple, qui jettent des feuilles dessus pensant que les feuilles vertes des arbres ou bien des fleurs dédiabolisent ce genre de maladie.
Alors dans les écoles, vous allez expliquer aussi aux élèves ce qu'il faut faire quand un de leurs condisciples fait une crise d'épilepsie pour éviter qu'ils n'avalent leur langue.
Oui, effectivement. Que ce soit donc dans les écoles, dans les églises ou bien dans les quartiers, nous descendons pour faire des sensibilisations pour que les personnes sachent déjà qu'est-ce que c'est comme type de maladie. Que ce n'est que sous forme de crise, donc après les personnes ne sont plus malades, ils peuvent faire les fonctions quotidiennes et pour que justement ces personnes-là ne soient pas rejetées. Et on fait même donc des scénarios en théâtre que les patients jouent donc sur la place publique et ce sont les patients eux-mêmes qui ont trouvé le scénario concernant leur maladie et c'est eux-mêmes qui jouent dedans. Et on fait ça donc sur la place publique pour que ça soit dédiabolisé. Et quand c'est l'épileptique lui-même qui joue, c'est vraiment très fort en émotion.
Pionnier dans le traitement de l'épilepsie à Madagascar, Naina a reçu pour son action le prix Jansonnet, décerné par l'Université de Louvain. C'est un gars étonnant qui a aussi des talents de chanteur. Nous l'écouterons dans une composition malgache avec le groupe Lamity, juste après la pub. A tout de suite.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Bienvenue dans la deuxième mi-temps de nos Belges du bout du monde à Madagascar. Nous sommes en compagnie du biologiste marin Gilles Boeuf et de Naina Harrison, neuropsychiatre et, vous allez l'entendre, chanteur.
Ia le roa timisi antuni Tala kwamba le ruana mamu na wo ya le ruwe timisi antune. Tala kwamba le ruana mamu na wo ya le ruwe timisi antune.
Ah, bravo, bravo, merci infiniment. Quel beau cadeau. Naina, c'est un morceau Djalaka qui est un traditionnel de votre pays.
Oui, un morceau culte qu'on chante quand il y a des réunions de famille, des anniversaires, des mariages, dans tout ce qui est festivité dans le pays. C'est en fait, ça fait partie de la culture du Sud, mais qu'on a repris dans tout le pays. C'est ça, Madagascar. Il n'y a pas de distinction nord, sud, est, ouest.
Derrière chaque grand homme, il y a une femme d'exception, et inversement, bien sûr. Écoutez l'épouse de Naina se présenter.
Alors, Carmela, nom de jeune fille Ravida, je suis montoise, j'ai 50 ans, deux enfants, médecin, et je vis à Madagascar depuis 23 ans bientôt.
Deux enfants qui sont devenus grands, qui déploient leurs ailes à leur tour. Ils ont aussi quitté le nid, comme vous l'avez fait il y a